Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à tous, il est 17h30, vous êtes à l'écoute de Syllab et c'est l'heure de l'inattendu.
T'as du jungle là ?
Ouais, il y a Tarzan et Jane qui viennent d'atterrir par la première liane du matin.
Vous avez entre 16 et 18 ans, vous ne pouvez donc pas encore trouver un job d'été, mais vous pouvez quand même travailler en équipe, être acteur de votre territoire et de votre activité avec la coopérative Jeunesse de Service, proposée ici en Bretagne notamment par Réseau Solidaire. Et nous sommes avec Émilie Coupa pour en parler. Bonjour à toi.
Bonjour.
Tu es chargée de mission donc, pour ces CJS, ces coopératives Jeunesse de Service, qui permettent, comme on l'a dit, à des jeunes entre 16 et 18 ans de créer en fait une micro-société éphémère sur le temps des vacances, notamment pour les responsabiliser, mais aussi pour se partager un petit pécule. Comment ça se passe très concrètement quand on veut s'engager dans cette aventure-là ?
Concrètement, les jeunes prennent contact avec soit Réseau Solidaire, soit les structures partenaires, les parrains jeunesse. Donc au nord, ça va être la maison de quartier de la Bélangerie, la direction de quartier nord-est, le cadran et le cercle Paul Bert des Gailleuls. Et au sud, ça va être la MJC Bréquigny et la direction de quartier nord-est, direction de quartier sud-est et direction de quartier sud-ouest. Et les coordinateurs et animateurs côté Blône.
Ils ne seront pas laissés seuls pour tout ça, puisqu'il y a des parrains jeunesse notamment qui les accompagnent et qui les forment.
Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, qui sont de 12 à 15, qui vont créer leur entreprise, décider tout seul le nom de l'entreprise, prendre des décisions, faire partie d'un conseil d'administration. Mais ils ne sont pas tout seuls dans le sens où ils sont accompagnés avec deux animateurs. Les deux animateurs sont là pour fédérer le groupe, dynamiser le groupe, les accompagner, les orienter, mais pas prendre de décision à leur part et pas tout faire à leur place. Et à côté, effectivement, il y a les parrains jeunesse. Les parrains jeunesse, ce sont les structures jeunesse autour et les parrains économiques qui leur permettent de les aider sur des missions, soit de les accompagner sur des missions, soit de leur donner un apprentissage en fait sur la partie compta, la partie flyer et autres, parce que ça va être par exemple à la maison de quartier de la Bélangerie, c'est l'animateur multimédia qui va les aider sur le flyer et l'affiche. Voilà.
Alors c'est eux qui vont choisir l'activité concernée, mais ça touche quel type de secteur d'activité ?
Ça touche tous les secteurs d'activité en fait, tout ce qui est collectivité, associations, particuliers et entreprises. Tous ceux qui pourraient proposer du rayonnage, du jardinage, du nettoyage de véhicules, de bureaux, de vitres, de l'aide administrative, de l'aide informatique, de l'aide aussi sur les festivals, parce qu'ils font aussi ça sur le festival quartier d'été et festival Transat en ville, où ils font une buvette solidaire. Et ils sont aussi sur les marchés. Et ils peuvent aussi, s'il y a besoin... déménagement, rangement, enfin tout, il n'y a pas de secteur prédéfini.
Et qu'est-ce que ça leur apporte pour la suite d'avoir participé à cette aventure-là pour ceux qui l'ont déjà fait ?
Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, la plupart c'est je suis trop content, je peux mettre un truc sur mon CV, enfin ça c'est vraiment, c'est une expérience, c'est une première expérience professionnelle, donc ils se font aussi connaître sur leur territoire, ce ne sont pas que des jeunes, ils montrent à l'adulte qui sont responsables et qui prennent en main qui se prennent en main en tout cas. Et ils sont en lien aussi avec des personnes significatives, donc les animateurs, les comités locaux, les parrains. Plus tard, c'est intéressant pour tout ce qui est stage, premier job d'été, enfin des choses comme ça. Et ils gagnent de nouvelles compétences, alors liées à la mission dans l'entreprise, parce que ça va être... ils doivent gérer à tour de rôle les finances, RH, communication, conseil d'administration, la cuisine aussi. Il y en a, ils ne savent même pas faire de gâteaux en début, et à la fin, ils savent faire des gâteaux, c'est incroyable. Et ils participent aussi aux réunions donc, du conseil d'administration, ils prennent part aux décisions collectivement. Ils gèrent un budget, une caisse, ils réalisent des prestations, ils apprennent de futurs jobs d'été. Et puis, liés aussi au savoir-être, c'est-à-dire qu'ils apprennent à communiquer, à donner leur opinion en groupe, prendre des décisions et résoudre des problèmes, apprendre à s'organiser, avoir des responsabilités, gagner de confiance en soi. Et en gros, c'est ce, ils se partagent à la fin, selon leur décision, un gain qu'ils ont récolté tout au long de l'été. Ils sont le boss l'été.
Devenir le boss dès 16 ans, c'est possible, donc on l'a dit, avec Réseau Solidaire et ses coopératives jeunesse de service. On voit aussi dans les retours que le travail en équipe est important pour eux, ça crée des liens aussi, des rencontres à cet âge-là.
Bon, oui, bien sûr. Certains jeunes sont plus habitués à rester chez eux et donc du coup, ça leur permet de sortir de leur quotidien et d'apprendre aussi une autre démarche, à s'occuper l'été. Et de rencontrer des jeunes comme eux qui sont aussi en manque de confiance en soi, qui ont du mal à parler en public. C'est un premier pas dans le monde du travail en plus. En plus, c'est pour comprendre aussi comment ça fonctionne une entreprise entrepreneuriale, en tout cas, enfin, un truc...
L'entrepreneuriat, donc, dès 16 ans, on voit dans certains retours, notamment, par exemple, de Dominique Babillotte, qui lui est de coopérer pour entreprendre, qui dit que dans notre société actuelle, ils auront, quoi qu'il arrive, à vendre leur activité. Il parle presque même de fin du salariat. C'est une idée que tu partages, toi ?
Fin du salariat, non, peut-être pas, non. C'est juste, là, c'est pour montrer aux jeunes qu'il y a aussi une autre forme d'entrepreneuriat. Ça ne va pas totalement arrêter l'autre partie. Là, c'est pour montrer qu'il y a aussi un autre domaine d'activité possible. Là, c'est pour donner un premier pas vers l'économie sociale et solidaire.
Justement, l'économie sociale et solidaire, certains jeunes à 16 ans ne savent pas forcément ce que c'est, quel secteur c'est. Qu'est-ce qui se passe quand ils découvrent tout ça ?
Ben, là, en gros, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pense pas qu'ils prennent conscience vraiment de ce que c'est, qu'ils sont dans un pied économie sociale et solidaire. Mais au moment précis, pendant le juillet-août, ils n'en prennent pas conscience tout de suite, mais c'est des choses qui se développent par la suite. Ce sont des atouts, des compétences qu'ils développent après. Et du coup, certains jeunes reviennent avec les acteurs en lien, puis essayent de reprendre contact et puis... Il y en a qui vont vraiment s'orienter vers un domaine d'activité plus, je ne vais pas dire plus humain, mais plus solidaire, plus en lien avec l'économie sociale et solidaire.
L'entrepreneuriat solidaire, c'est possible dès 16 ans avec les coopératives jeunesse de service. Merci beaucoup à toi d'être venu nous en parler. Et puis on rappelle que pour tout ça, c'est Réseau Solidaire, bien entendu. Il faut contacter une quinzaine en Bretagne donc, qui pourront s'investir comme cela. Donc n'hésitez pas.
T'as du jungle, là ?
Ouais, il y a Tarzan et Jane qui viennent d'atterrir par la première liane du matin.
Et on poursuit cette émission avec un festival qu'on connaît d'ores et déjà très très bien et qui va entrer dans un nouveau tournant, il me semble, puisque c'est bientôt la 10e édition. Là, c'est en fait la 9e. C'est le festival Cour en béton, bien sûr. Alors, festival du film de l'Ouest, plus exactement. On les connaît bien puisque à chaque fois, la ville de béton se met à vibrer au rythme de ces films bretons, bien entendu. Antoine est avec nous pour nous en parler. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alors, cette année, vous avez voulu encore faire grand, même si les 10 ans, il va forcément falloir faire quelque chose. On abordera ça tout à l'heure, mais vous osez commencer aussi ce festival et l'ouvrir par un film qui ne correspond pas en fait à votre ligne de programmation, un film qui n'est pas breton, qui est en fait belge.
Alors, il est franco-belge et il a été tourné en partie à Rennes. Donc on rentre bien dans la ligne directrice du festival et c'est un premier long métrage. Donc on est aussi dans cet esprit de jeune cinéma, puisque c'est le premier long métrage du réalisateur, même s'il a fait pas mal de courts métrages. Mais on reste dans cette optique-là. C'est pas forcément des films qui sont faits par des Bretons en Bretagne pour un public de Bretons. On va aussi chercher des réalisateurs qui viennent pas d'ici, qui tournent en Bretagne, ou l'inverse, des Bretons qui vont tourner des films en dehors de Bretagne.
Ce film-là, c'est Je me tue à le dire, comme tu as pu le dire aussi, tourner en Bretagne, c'est ce qui fait la spécificité du festival, c'est quand même cette attache bretonne, mais comme tu le dis, très diversifiée, mais il y a quand même cet ancrage à garder là, qui vous convient bien.
Oui, bah, c'est vraiment le nerf du festival. Après, voilà, on voyage aussi, on a des films qui ont été, par exemple, tournés en Chine, mais par un Breton, par exemple. Donc on reste toujours sur cette ligne directrice, c'est vraiment la Bretagne, mais pas forcément des films qui sont tournés ici.
Alors, est-ce que les réalisateurs bretons, par exemple, ont une spécificité qui leur est propre ?
Dans le cinéma, tu veux dire, qui est fait ici ? C'est une question très compliquée. Mais il y a toujours un rapport, je pense, un petit peu au territoire. Et le voyage, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. La lutte aussi, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Après, de là à dire, est-ce qu'il y a une spécificité du cinéma breton ? Je laisserai les spécialistes vraiment en parler.
Pour votre part, vous êtes aussi investi dans ce qu'on peut appeler la production. Ce sera plus pour la soirée de clôture avec un western costar-mauricain. Ça, c'est quand même pas rien. C'est Gargantua. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Bah oui, c'est le premier film que coproduit l'association Cour en béton, parce qu'on avait envie de diversifier aussi un petit peu notre activité. Et c'était en fait assez cohérent, puisqu'on travaillait avec un réalisateur, Léo Dazin, qui a donc réalisé le film, qui avait déjà réalisé notre teaser l'année dernière. C'était un petit peu sous le format de court-métrage. Et on avait envie vraiment de l'accompagner à la fois sur un nouveau teaser pour le festival, donc le teaser du festival est un dérivé en fait du film qu'on a tourné, mais on avait vraiment envie de prendre part à cette coproduction là et d'ailleurs c'était un film sur lequel a participé à la fois des professionnels du cinéma mais aussi des passionnés, des jeunes. On a eu des étudiants de Rennes 2 qui sont venus sur le film et on restait toujours dans cet esprit de réunir à la fois les professionnels, les jeunes en voie de professionnalisation. Et donc du coup, voilà, le film sera présenté en clôture.
Le teaser, vous pouvez le découvrir sur le site internet courenbeton.com, bien sûr. Tu as parlé de cette envie de soutenir les étudiants, ces nouveaux professionnels aussi, avec la compétition notamment, premier film. Pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur d'accompagner ces premières réalisations-là ?
Parce que je pense que beaucoup de choses se jouent chez les jeunes générations, tout simplement. Et je pense que c'est important de les valoriser, de les stimuler aussi, parce que c'est un milieu qui est quand même très difficile. Ils se donnent beaucoup de mal pour faire des films, et c'est des films qui peinent à accéder au grand écran. Et je pense que c'est très valorisant pour eux, déjà de voir leurs films sur grand écran, dans de très bonnes conditions. On est vraiment dans une salle de cinéma. Les conditions de projection sont donc optimales. Et ça leur permet aussi de rencontrer le public, et ça peut faire naître aussi des vocations, tout simplement. Et on a plein d'exemples comme ça, de réalisateurs qui sont passés par le festival, qui étaient très jeunes au tout début, qui bidouillaient et qui se sont professionnalisés au fil des années. Et ça, c'est important pour nous de mettre ça en avant.
Et cette nouvelle génération, cette jeune génération de réalisateurs, c'est quoi ses préoccupations, sa vision de l'avenir du cinéma ?
Oula ! Vaste question encore. En tout cas, je pense qu'il y a il y a un besoin un petit peu de liberté, et une liberté de ton. Moi, ce que je vois beaucoup chez les jeunes réalisateurs, c'est c'est ce mélange un petit peu des genres, de proposer des choses beaucoup plus hybrides, beaucoup plus osées dans la forme. On n'est pas non plus dans l'expérimentation, hein, mais de vraiment mélanger le documentaire, la fiction, les genres. Il y a aussi un retour du film de genre. Chez les jeunes générations, par exemple, il y a beaucoup de films d'horreur. Et ça, c'est quelque chose, pareil, qui n'est pas très souvent mis en avant, en tout cas sur des festivals assez génériques. Après, il y a les festivals spécialisés, bien sûr, mais sur des festivals génériques, voir du film de genre, c'est pas forcément une habitude.
Pour les professionnels, il va y avoir aussi des rencontres. Forcément, c'est l'occasion de faire se rencontrer tout ce beau monde autour de tables rondes, de discussions. C'est indispensable aussi, ça, dans ce que tu disais, de l'aide à l'émergence et à la création, d'organiser ces moments de rencontre.
Bah oui, parce que c'est là où, justement, des professionnels, des non-professionnels peuvent se rencontrer. Et là, par exemple, cette année, on va faire une sorte d'étude de cas sur, justement, la coproduction entre une association et une société. Parce que c'est un modèle qui existe. Et l'idée, c'est de faire un focus pour voir, bah, justement, comment une association et une société peuvent se collaborer tout simplement ensemble sur un projet de film. Donc là, l'idée, c'est de montrer voilà ce qui existe, comment ça a été fait sur un exemple, en fait, et puis justement de créer un désir pour des professionnels et des gens qui ne sont pas forcément professionnels, même si dans des associations, on peut avoir des professionnels. Mais l'idée, c'est de montrer que deux mondes peuvent totalement coexister, voire sont complémentaires, tout simplement.
Donc forcément, réfléchir au modèle économique aussi pour la liberté de la réalisation, ça c'est indispensable. Parlons un peu du public maintenant, on peut en dire quelques mots. Vous avez aussi votre public de fidèles qui est bien installé.
Oh oui, chaque année, il y a toujours un petit peu les mêmes qui reviennent. Après, chaque année, il y a aussi de nouveaux spectateurs. Chaque année, ça augmente. Et c'est un public qui reste quand même très diversifié. On a un public d'enfants, puisqu'on essaye aussi évidemment de... L'idée, c'est de proposer un maximum de choses pour une large diversité de public. Les jeunes, évidemment, mais on a aussi des retraités. Enfin, il y a vraiment de tous les âges et ça vient un petit peu de partout. Ça vient pas que de béton, c'est pas qu'un public bétonné. C'est un public qui est très rennais métropolitain, mais ça vient aussi de plus loin. Et donc oui, il y a les mêmes, il y en a des nouveaux chaque année. Il y en a qui découvrent le festival, qui n'avaient jamais entendu parler en 9 ans et qui se disent « mais c'est génial !» et qui reviennent du coup. Donc le bouche à oreille aussi fonctionne.
Donc pour tout ça, pour tout découvrir, c'est Autriskel, bien entendu, à Béton. On est déjà bien habitué, tout est prévu hein, au festival, il y a un bar aussi, restauration, tout ça. C'est un vrai festival en fait de cinéma breton, on l'a dit, avec cette accroche-là, bien entendu, qui aura bientôt 10 ans. Et oui, 10 ans, c'est pas rien. J'imagine que toi, en tant que directeur artistique et programmateur, ça doit être quelque chose d'assez comac, qui doit se préparer depuis déjà un moment, les 10 ans.
C'est difficile parce qu'on travaille beaucoup, donc c'est compliqué de se projeter un an après. Mais oui, effectivement, on est déjà en train d'y réfléchir avant même que cette édition soit passée. On est déjà en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 ans? Donc il y a déjà eu quelques réunions. Moi, j'y réfléchis de mon côté. De toute façon, tout est plié pour cette édition là qui arrive très vite. Donc là, on est déjà en train de réfléchir. Tout doucement aux 10 ans, mais on ne révélera rien aujourd'hui.
Sur la ligne directrice, vous allez chercher quelque chose d'un peu farfelu ou plutôt quelque chose de ce que vous savez très bien faire, mais en plus gros, c'est... Non, tu ne veux rien révéler.
Pour les 10 ans, tu veux dire ouais. On verra. On a encore un an pour y réfléchir.
J'aurais essayé. Le Festival du film de l'Ouest, c'est du 7 au 10 juin avec une grosse diversité. Tu le disais aussi sur le film de genre, on peut peut-être y revenir un petit peu quand même sur cette tendance qui est effectivement très, très prégnante. Le film d'horreur non seulement, mais vraiment pas seulement. Le film de genre revient au galop, comment tu l'expliques toi ça?
C'est une bonne question aussi. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais je pense qu'on est sur des genres aussi qui sont beaucoup plus... C'est plus osé, ça attire moins le grand public aussi. Enfin, si je prends vraiment les, on va dire un peu le cinéma mainstream, c'est compliqué de faire du film de genre pour un grand public. Et je pense que justement, c'est parce que c'est des genres qui sont un petit peu bridés. Je pense qu'il y a cette volonté d'aller justement titiller ces genres-là et de les mélanger surtout. Mélanger de l'horreur avec autre chose, de l'horreur avec du documentaire par exemple, même si c'est des choses qui ont déjà été faites. Mais ça revient un petit peu effectivement au galop. Après, de pourquoi? Alors ça... C'est une grande question.
On laissera leur liberté artistique aux réalisateurs et à tout ce beau monde qui travaille autour du cinéma. Rendez-vous à Béton du 7 au 10 juin pour le Festival du film de l'Ouest. C'est organisé par Courant Béton. On remercie d'ailleurs la ville de Béton aussi pour son soutien et toutes les personnes qui œuvrent pour ce festival. Merci beaucoup à toi Antoine d'être venu.
Merci à toi.
Join the meditation, follow the vibration.